Book Club.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Boomerang, bienvenue dans notre émission La Voix est libre, un programme proposé par l'association Buena Vista Video Club, un programme de parole citoyenne qui a lieu tous les troisièmes dimanches du mois. Donc voilà, ça y est, nous y sommes. C'est Hélène au micro et je suis divinement bien accompagnée par Natalka. Salut Natalka.
Salut Hélène.
Ça va, la forme?
Écoute, oui, ça va, hein, la forme, on va dire ça.
Il y a aussi Pipo Solo, Gaëlle, comment vas-tu?
Très très bien, nous sommes pleines d'oiseaux, c'est joli. C'est
vrai. Et il y a Louise qui est là aujourd'hui, parce que voilà, Louise, notre plus jeune adhérente, qui vient quand c'est les vacances scolaires. Et donc voilà, elle est là aujourd'hui, salut Louise.
Coucou.
Ça va, la forme?
Oui, ça va.
Le brevet blanc?
Oui, ça a été, merci.
Alors bien sûr, il y a aussi notre invité qu'on va vous présenter dans quelques instants. Pour rappel, La Voix est libre est disponible en podcast sur le site internet du Buena Vista Video Club, sur le site de Radio Boomerang, et puis aussi sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez. Alors j'ai remarqué qu'il y avait d'autres émissions La Voix est libre, donc la nôtre c'est celle avec le petit rouge-gorge qui crie La Voix est libre.
Et la nôtre c'est la meilleure.
Et bien entendu. Et du coup, je vais profiter de cette histoire de rouge-gorge pour faire la transition avec notre invité du jour. Notre invité qui est Rudy. Rudy, attends, excuse-moi pour le nom de famille, j'ai un peu du mal et comme je ne le retrouve pas, Piscuta, c'est ça,
c'est
dis bien?
Très très bien.
Voilà, qui est le directeur du GON, le GON qui est le groupe ornithologique et naturaliste du Nord, c'est correct?
Groupe ornithologique et naturaliste, okay. Agrément régional Hauts-de-France.
Bah, bonjour Rudy et bienvenue.
Bonjour Hélène, bonjour Gaëlle, bonjour Louise et bonjour Nat.
Ouh, il a tout retenu.
Alors effectivement Rudy, bienvenue dans notre émission, ici dans les studios de Radio Boomerang. Est-ce que tu peux dans un premier temps nous parler un petit peu, nous expliquer ce que c'est l'ornithologie pour les personnes qui ne connaissent pas et aussi le GON du coup, qu'est-ce que c'est exactement ce groupement?
L'ornithologie c'est de l'observation et l'étude des oiseaux sauvages. Donc c'est une discipline qui, ça peut être une occupation de loisir, on se fait plaisir, on est dehors, on observe, on est content, mais ça peut être aussi une activité plus scientifique, on dénombre les oiseaux, on essaye de les comprendre, on essaye de voir quels sont les impacts qui font varier l'état des populations. Donc voilà, il y a deux entrées possibles. Et puis le groupe ornithologique et naturaliste, c'est une association d'études, de valorisation et de protection de la faune sauvage. C'est une association qui a été créée en 1968, originellement par des gens qui étaient passionnés par les oiseaux, puisqu'à l'époque, c'était les animaux qui étaient les plus faciles à observer. Et puis très rapidement, l'association a commencé à travailler sur d'autres sujets, les mammifères, les amphibiens, les reptiles, les insectes, même les araignées. Voilà, donc une association qui a un rôle scientifique, d'expertise, mais aussi de pédagogie.
Merci, merci pour ces explications, Rudy.
Moi, j'avais une autre petite question. Qu'est-ce que tu penses de notre logo?
Évidemment, je l'adore. Je l'adore. Je ne suis venu presque que à cause du logo. Non, évidemment, pour faire votre connaissance.
Non, mais j'imagine que quand même, ça a dû jouer en notre faveur.
Complètement. Et puis le rouge-gorge, c'est vraiment... Un oiseau qui est tellement bien connu du public, qui a un tel capital sympathie, vous ne pouviez pas trouver mieux.
Et il a de la voix aussi.
Il a de la voix et puis il a une coloration vive qui attire les regards. Et voilà, c'est un oiseau immanquable, comme votre émission évidemment.
Merci. pour moi c'est important d'être transparente sur pourquoi on invite les personnes dans notre émission. Donc pour remettre dans le contexte, moi j'ai commencé la formation ornitho du GON au mois de septembre. C'est une formation qui se déroule sur 3 ans, peut-être 4 maintenant, je ne sais pas.
Oui, on a rajouté une quatrième année de travaux pratiques pour les personnes qui veulent aller plus loin et participer à nos activités en tant que militants.
Et après, on a des sorties qui sont proposées presque tous les week-ends, des sorties de terrain, donc pour permettre de mettre nos connaissances en pratique. Et je crois qu'on a eu 3 cours avec toi, Rudy. Et moi, ça a été 3 cours que j'ai beaucoup aimé parce qu'il n'y avait pas seulement une approche, comme je t'ai expliqué, pas seulement une approche scientifique, mais il y avait aussi une approche sensible, voire philosophique parfois. Donc je trouvais ça très intéressant de, voilà, de rentrer dans ce domaine de l'ornithologie par cette porte-là. Et voilà, donc aussi un bonjour peut-être aux élèves qui nous écoutent aujourd'hui.
Bonjour à toutes et tous.
Alors Rudy, la tradition dans notre émission, c'est que Nat dresse un portrait de nos invités. Donc je lui laisse tout de suite le micro. À toi de jouer, Nat.
Notre invité est un autodidacte qui a soif de cette connaissance du monde du vivant. Il étudie et essaie de comprendre la nature. Écologue et pédagogue dans l'âme, il porte haut et fort la biodiversité dans son cœur et dans le cœur de ceux qui souhaitent entendre et voir ces choses de la nature que personne ne voit ou n'entend. Il a un super pouvoir, celui de se mettre dans la peau des autres espèces pour voir le monde différemment. Il nous encourage à être curieux, à nous émerveiller. Alors, êtes-vous prêts, vous, auditrices et auditeurs, à vous laisser porter et ainsi à ouvrir les portes, les petites portes de la faune sauvage en compagnie de notre très cher Rudy. Bienvenue Rudy.
Merci, quel très beau portrait. Je ne sais pas si j'en mérite autant, mais j'en suis très flattée du moins.
Bon, bah, bravo Nat pour cette belle plume, toujours sympa à écouter.
Eh bien, c'est un plaisir pour moi, merci à vous. Avant de commencer alors à discuter avec toi d'oiseaux, de faune sauvage et d'écologie, quoi, de la vie, hein, tu nous as proposé un morceau à écouter. Il s'agit d'une musique de Lorena McKennitt qui s'intitule « The Old Ways ». Allez, c'est parti, on écoute et on se retrouve juste après. Waouh, on est parti loin dans les cieux avec Lorena, alors McKennitt, c'est bien ça, Rudy?
Oui, tout à fait.
Alors on est dans le style un peu celtique.
Oui.
Pourquoi tu nous as choisi ce titre-là? Qu'est-ce qui t'inspire?
Alors Lorena McKennitt trouve que toutes ses chansons sont formidables. Et dans cette chanson-là en particulier, l'alternance entre des moments vraiment calmes où sa voix nous emmène presque dans quelque chose de statique, et puis d'un seul coup ça repart, je sais pas, comme les vagues, comme un cheval au galop. Je trouve ça formidable, ça représente tellement les aléas de la vie quand on se fait emporter, bien malgré nous parfois, que cette chanson là en particulier me parle.
Bon, mais en tout cas une belle découverte pour nous.
Alors, on va te poser quelques petites questions, du coup, c'est pour ça que tu es là. Tout à l'heure, tu nous as présenté le GON, tu nous as parlé de ce qu'était l'ornithologie, donc l'étude des oiseaux. Tu peux nous expliquer un petit peu, toi, ton amour pour les oiseaux, pour les espèces sauvages? Ça vient d'où? Ça a commencé quand?
Alors, je pense que comme tous les enfants, ou comme beaucoup d'enfants, il y a la passion pour les animaux. On a envie d'être vétérinaire dans un premier temps, bien sûr, et puis on se rend compte qu'on ne peut pas. C'est pas vraiment notre voie. Et puis, personnellement, j'ai commencé à vouloir les dessiner, d'abord, et puis aller les observer, ensuite. Et en fait, chaque nouvelle rencontre, c'est une nouvelle découverte. Et à chaque fois, on a envie d'en savoir plus, de tirer sur la ficelle, pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et ouais, c'est tellement... Il y a tellement de choses à découvrir, alors des espèces, évidemment, mais aussi autant de scènes. Derrière chaque observation, on a toujours une surprise. Parfois, on a de la frustration. Beaucoup disent que l'ornithologie, c'est l'école de la frustration. Mais on est récompensé par d'autres choses. En fait, dès qu'on est dehors, que ce soit même dans la rue, on en a fait l'expérience tout à l'heure, on voit des choses et on peut s'émerveiller de petits riens. C'est génial.
Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure?
Tout à l'heure, en arrivant jusqu'au studio, j'ai vu une grosse abeille violacée qu'on appelle le xylocope. C'est une très grosse abeille solitaire qui était en train de butiner dans une glycine. Donc j'ai pris un peu de temps pour l'observer, pour rentrer la donnée dans notre outil qui s'appelle CIRF.
Alors Rudy, petite question pour moi. D'après toi, est-ce qu'en observant les espèces, hein, comme tu l'as fait tout à l'heure avec cette abeille violacée, ça nous apprend des choses sur nous, les humains ou...
Ça devrait du moins nous apprendre à être modestes, puisqu'on se rend compte qu'on n'est finalement pas tout seul, et ce serait bien qu'on se le dise une fois pour toutes. Après, ça nous apprend la patience, le respect aussi, et puis faire quelque chose dont l'être humain n'a pas l'habitude, c'est de ralentir la vie, en tout cas son rythme de vie, et puis gommer un petit peu sa personne pour essayer de se fondre dans l'environnement. Alors oui, il ne faut pas rêver, hein, on n'est jamais complètement invisible, mais au moins on peut commencer à se faire accepter d'une autre partie du monde vivant, quelque chose qui n'est pas l'humanité, mais qui mérite aussi notre respect.
Et d'ailleurs, l'une des premières choses que tu nous as dit quand on a commencé les cours, c'est qu'il fallait essayer d'arrêter de penser comme des humains, mais qu'il fallait essayer de se mettre, dans notre cas précis, à la place des oiseaux, et qu'il y avait peut-être des sens qui étaient différents, une intelligence qui était différente. Alors pour toi, est-ce que c'était important de nous signaler ça avant de commencer l'ornithologie ?
Oui, tout à fait, parce que alors c'est tout l'intérêt de cette formation ornitho, que d'emmener des gens au contact d'autres qui peuvent partager avec eux un petit peu d'expérience ou un petit peu d'information. Et effectivement, c'est quelque chose d'important, à mon avis, que de pouvoir, à un moment donné, oublier qu'on est un être humain, parce qu'on est très limité dans un certain nombre de façons de faire, de façons de penser. Et c'est intéressant de se glisser dans la peau d'un autre être vivant. Ça nous permet de voir qu'on est complètement imparfait, mais en même temps, c'est bien aussi. On est aussi des êtres vivants tout à fait honorables, respectables et merveilleux sur bien des aspects. Mais il y a plein de choses qui nous manquent. Et quand on se met à la place d'un animal, ça nous évite des raccourcis, comme se dire ce que j'ai dit moi-même, hein, qu'un pigeon ou une poule, c'est bête. C'est pas vrai du tout, c'est absolument pas bête. Alors, si je peux me permettre de donner un exemple, c'est un exemple que j'aime bien donner quand je fais des interventions, c'est la question des rats. Vous savez que parfois on voit des rats qui se baladent en plein jour, et le premier réflexe d'un être humain normalement constitué, c'est de dire qu'on est envahi par les rats. Et jamais on se pose la question de savoir ce que pense le rat. Et finalement, le rat, pendant les générations précédentes de cet animal, se faisait massacrer dès qu'elle sortait à l'air libre. Et là, on a tellement perdu le contact avec ces animaux que quand on voit sortir à l'air libre, on a limite bientôt plus peur. Et lui, finalement, il le comprend très vite, très bien, qu'il peut tout à fait sortir, puisqu'il n'y a personne qui vient l'embêter, il n'y a plus de chiens, en tout cas, ils sont tenus en laisse, il y a de la nourriture parce qu'on en jette partout, on en gaspille partout. En fait, il n'y a pas une invasion de rats. C'est juste que les rats, ils ont appris à vivre avec les êtres humains et ce qui leur permettait de faire en tant que rats maintenant.
Donc la plupart des animaux doivent se dire, si on se met dans leur tête, mais quelle est cette espèce invasive qu'est l'humain ?
Ah mais complètement, on est partout et de plus en plus. Donc oui, les animaux, ils nous considèrent comme d'autres animaux, hein, ni plus ni moins.
Alors tu parlais tout à l'heure, Hélène, de la philosophie que tu retrouves un peu quand tu vas au cours avec le GON. Moi, quand j'étais petite, le professeur de philosophie avait dit « la mouche, elle ne voit pas le monde de la même façon que vous ». Et petite, ça m'avait assez marquée. Voilà, c'était une petite anecdote aussi. Du coup, j'ai gardé ça tout le temps et j'avais toujours ça à l'esprit qu'une mouche, le monde, c'est pas nous en tant qu'humains.
On voit pas le monde du tout
réellement. Voilà, réellement, voilà. Bon.
Sujet de philosophie. Il y a des tas de réalités qui sont... qu'on arrive à percevoir ou pas en fonction de nos sens et de ce qu'on est capable d'appréhender et de comprendre aussi de ce qu'on voit. Donc effectivement, la mouche voit les choses complètement différemment.
C'est vrai que nous, on a 5 sens, mais il y a d'autres espèces, par exemple les végétaux, ont d'autres sens que nous, on n'a pas.
Mais on sait maintenant que les végétaux communiquent. On peut essayer d'imaginer ce que ressent un végétal. C'est un être vivant, il doit forcément ressentir quelque chose. Quoi ?
Comment ?
De quelle manière ? En tout cas, un être vivant, il est forcément en interaction avec le reste de son environnement. Donc, il perçoit un certain nombre de choses. Et c'est juste fascinant d'essayer d'imaginer ce que ça peut être d'être un arbre ou juste un brin d'herbe. Ça ouvre des perspectives assez rigolotes quand même.
Et d'ailleurs, pendant un cours, tu parlais des pigeons. Le fait qu'ils s'adaptent si bien, ça prouve aussi qu'ils sont intelligents. Sinon, ils ne seraient plus, tout simplement.
Oui, complètement. Hein. Un exemple que je prends dans certains cours, les premiers explorateurs qui découvraient les dodos. En fait, les explorateurs, enfin les marins, disaient que c'est un animal stupide puisqu'il ne se sauvait pas devant l'homme. Et il faut imaginer que cette espèce n'avait jamais rien vu qui ressemblait à un homme auparavant. Il ne savait pas voler. Et il n'avait foncièrement pas de raison de se sentir agressé en voyant arriver ce gros bidule sur deux pattes. Et donc, on cueillait littéralement les dodos, puisqu'ils n'avaient pas comment réagir. Et donc, ces animaux qui ne savaient pas quoi faire, comment faire, on les a souvent affublés de noms qui n'étaient pas très sympas. Hein. Il y a une autre espèce d'oiseau marin, une espèce de sterne, qu'on a longtemps appelé le nodi niais. Voilà, niais comme pas malin. Alors qu'en fait, c'est juste un oiseau comme un autre, quoi, sauf qu'il ne connaissait pas l'être humain.
Il y a plein d'insultes, entre guillemets, en tout cas des mots pas très doux, qu'on dit à d'autres humains qui sont des noms d'oiseaux.
Oui, tout à fait.
Il y a plein de mots comme ça, hein, les noms d'oiseaux, les fameux noms d'oiseaux. Ça reflète aussi le peu d'estime qu'on a longtemps porté aux oiseaux, qui étaient considérer déjà que ce n'est pas des mammifères, donc c'est forcément moins bien que les êtres humains, qui sont eux des mammifères et qui se trouvent au summum de l'évolution, c'est bien évident.
Alors Rudy, le mois dernier, notre émission c'était sur le bonheur, avec notre invitée Mélanie, hein, Gilman, qu'on salue aussi. Selon toi, connaître son environnement, les espèces qui habitent et vivre en harmonie avec elles, est-ce que ça nous permet d'être plus heureux au final ? C'est pas forcément lié.
ça nous permet certainement d'être plus heureux parce qu'on profite peut-être mieux de ces petits plaisirs de la vie. Juste sortir, écouter le chant des oiseaux, c'est pas grand-chose en soi, mais c'est pas si évident que ça. Quand on a un peu de temps à perdre, et j'invite chacune et chacun d'entre vous à faire ça, hein, allongez-vous juste sur l'herbe, mettez-vous à hauteur et regardez ce qui se passe. Alors vous allez voir qu'il ne se passe pas grand-chose, hein, mais vous allez prendre le temps, ce qui est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Ça contribue au bonheur. En tout cas, il y a des études qui montrent que plus on est coupé de la nature, et moins on se sent bien. Après, on est toujours très sensible à des tas d'odeurs. Pensez à l'herbe coupée avec l'odeur de coumarine. Forcément, ces odeurs-là, qui qu'on soit, ça nous rappelle toujours quelque chose. Un moment en particulier de notre vie. C'est peut-être ça aussi le bonheur, hein, de se rappeler parfois des petites choses qu'on a appréciées. Et tu le disais à juste titre, Hélène, on est limité par nos sens. Par contre, on peut apprendre à mieux les utiliser, à mieux les exploiter pour mieux apprécier.
C'est ce qu'on fait avec le gone, hein, en fait. On apprend à écouter, voir, c'est ça. Principalement, ces deux sens-là.
Et on peut aussi apprendre à sentir. Pour les oiseaux, ça ne sert pas à grand-chose, pour les étudier. Par contre, petite expérience très facile, quand vous baladez en forêt, les chemins laissés par les animaux, hein, vous avez certainement déjà vu. Donc c'est des autoroutes des animaux. Beaucoup en utilisent en forêt. Et puis, quand vous passez dans ces chemins, soyez attentifs aux odeurs. Parfois, vous sentez l'odeur très musquée du renard, par exemple. Et donc, pareil, là, vous commencez juste à entrouvrir la porte sur le monde olfactif de la plupart des mammifères. C'est sympa.
Pour rebondir sur la question de Nat de tout à l'heure, par rapport au bonheur, moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça te procure à toi d'être dehors quand tu observes, quand tu sens.
C'est très égoïste, hein, mais c'est le moment où on est tout seul pour soi. Voilà. On peut être dehors pour pratiquer une activité naturaliste, et en fonction de l'activité naturaliste, on peut avancer plus ou moins rapidement, on peut faire plus ou moins de choses, mais au moins on est dehors pour soi, on est là parce qu'on a envie de se faire plaisir, on n'a pas d'objectif, même si parfois dans un cadre professionnel, on doit réaliser un certain nombre de choses. Mais j'ai pas d'autre mot qu'un peu égoïste, mais en même temps l'égoïsme ça fait du bien de temps en temps de pouvoir juste être là et de profiter de ce qu'on nous donne ou pas. Parce que parfois on n'a rien du tout, hein. On peut faire des sorties complètement qui peut être perturbée par la pluie ou par le brouillard ou tout un tas de choses. Et même dans ces moments-là, je dirais que comme on n'a pas autre chose à faire que rester assis sous un arbre, attendre que la pluie finisse de tomber, on peut aussi faire abstraction à un moment donné de la vue. La vue, c'est un des sens essentiels de l'être humain, mais c'est aussi parfois quelque chose qui nous parasite. Ça nous empêche d'écouter, ça nous empêche de sentir, ça nous empêche de toucher. Et moi, je milite âprement pour qu'on laisse de temps en temps tomber sa vue pour profiter des autres sens.
Bien, bien dit Rudy. Les filles, vous voulez peut-être réagir par rapport à ce que Rudy vient de dire ?
Gaëlle, elle avait une question secrète.
J'ai une question secrète, qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as entendu parler de ce championnat de cri de la mouette ? Du cri de la mouette.
Oh mon Dieu ! Alors, je pense bien voir de quoi il s'agit.
Voilà, et donc, j'ai écouté les candidats de 2022, et bon, c'est vrai que c'est pas trop mal, mais je voudrais vraiment rendre hommage aux mouettes, qui, comme le pigeon, on a tendance à les considérer comme des animaux futiles, mais non. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour pouvoir imiter le cri de la mouette à la perfection, un cri qui soit fidèle et respectueux de l'animal, afin de me permettre de gagner le championnat ?
Alors, la première anomalie, c'est qu'on parle du festival ou du grand jeu du concours de la mouette, Bah, en fait, on imite le cri des goélands et pas des mouettes.
Ah mince. Ah bon ?
Et oui. C'est vrai. Voilà. Et donc, la première chose, c'est de savoir que quand tu vas aller porter le cri de la mouette, tu vas en fait essayer d'imiter le goéland argenté, qui est ce fameux oiseau qui gêne tant de personnes dans les villes. Mm-hmm. Et alors, deuxième conseil, écoute-les. Et ensuite, essaye de dialoguer avec eux. Alors, voilà, ça c'est quelque chose que j'adore faire. Je ne pense pas, très modestement, réussir. Mais en tout cas, ça marche assez bien, je trouve, avec certaines espèces d'oiseaux. Quand on essaye de les imiter, vraisemblablement que l'oiseau se demande ce que c'est que cet abruti qui fait un truc qui ressemble vaguement au cri de mon espèce. Mais en tout cas, on peut avoir un petit peu de répondant. Et c'est sympa. On a l'impression, à un moment donné, de discuter avec un oiseau. C'est génial. Donc, vas-y, essaye, lance-toi.
Bonne chance.
Voilà,
bonne chance.
On sera tout correct. Je n'ai rien d'autre à dire que ça, mais vas-y.
Je prendrai note de tes précieux conseils et tenterai de remporter la victoire.
On est avec toi.
Du coup, ils sont au courant ou pas qu'ils ne sont pas sur les bons cris?
Possiblement, probablement. En tout cas, on travaille beaucoup depuis l'année dernière au GON, justement, sur la question des goélands. Et c'est normal. En fait, les gens parlent toujours des mouettes. C'est les mouettes, c'est les mouettes. Donc, je ne sais pas si c'est volontairement entretenu par un gang international de mouetteurs. On devrait peut-être leur poser la question, effectivement.
C'est vrai que le jury a des têtes de goélands et non pas de mouettes.
Ils sont déguisés, en plus, c'est vrai. Ben hein.
Oui, ils ont des grosses têtes, en fait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas ça, la mouette. Qu'est-ce qu'ils font?
Ah bah donc, ils étaient en goéland. En goéland, ils sont au courant.
Voilà, ouais. Ils entretiennent volontairement la confusion, c'est complètement injuste.
Ben, compte sur moi pour leur faire remarquer.
Alors du coup, Rudy, tu as peut-être des espèces, toi, les espèces que tu apprécies le plus, quelles sont-elles en général?
Oh là,
où tu sens des ouais. petites connexions ou des choses qui te rappellent ton caractère ou je sais pas, ou simplement parce qu'elles sont belles
Voilà, c'est une question hyper difficile, hyper difficile parce que plus le temps passe et plus j'ai des espèces que j'aime bien. Et alors, bah, par exemple, les pigeons, les tourterelles, je les adore. Pareil, les perdrix, par exemple, les faisans. Et je les adore, je pense, je les adore parce que les autres ne les aiment pas, ou ne veulent pas les voir et ne s'y intéressent pas. Alors, c'est pas très malin comme raison. Mais en tout cas, j'ai envie de leur rendre la place qu'on devrait leur laisser. Une anecdote, par exemple, vous connaissez évidemment toute la tourterelle turque. Voilà, et quand on parle de la tourterelle turque, la première chose que les gens disent c'est « elle me casse les pieds le matin à 5h, elle chante comme pas possible, etc. » t'as toutes tes chances pour le concours international de tourterelle. Et ben voilà, et en fait, cette tourterelle turque, c'est un oiseau qui est hyper commun en ville, il n'y a plus personne qui la regarde. Avant le milieu du 20e, s'il n'y avait pas de tourterelle turque en France, elles sont arrivées par elles-mêmes d'Asie mineure et d'Inde, et leur population a augmenté naturellement, et elle est venue occuper la totalité de l'Europe occidentale. C'est une histoire qui est quand même assez merveilleuse, et pour autant, nous, la seule chose qu'on retient de la tourterelle turque, c'est qu'elle nous casse les pieds le matin à 5h.
Et d'ailleurs, quand tu parlais des pigeons, c'est vrai que du coup, ils souffrent aussi de cette réputation, on les voit en mauvaise santé, on en voit beaucoup avec une patte en moins ou...
Oui, alors en ville, il y a beaucoup de pigeons qui souffrent de pathologies diverses. Après, c'est surtout la manière dont les gens l'appréhendent, les rats volants, ce qui est extrêmement péjoratif, à la fois pour les rats et pour les pigeons d'ailleurs. Et en fait, c'est pareil, on projette sur ces animaux des choses qui nous gênent, nous. Les pigeons ne sont pas plus vecteurs de maladies que d'autres, mais bon, c'est comme ça. Après, sur les espèces que j'aime, que j'apprécie, il y en a vraiment plein, vraiment plein. Et c'est toujours pareil, derrière ces animaux, il y a toujours tout un tas de symboliques, tout inconscientes. Et c'est difficile de savoir si on aime l'animal pour l'animal ou pour ce qu'il représente. Alors moi, par exemple, j'aime bien les serpents. Et... j'aime bien les serpents parce qu'ils représentent tout un tas de choses, mais parce que derrière ces animaux, il y a aussi tout un tas de symboles conscients, inconscients. Mmh. Un serpent, c'est le symbole de l'éternité, donc ça nous projette quelque part dans notre place dans le monde. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut voir venir rajouter, mais... Voilà, j'arrête.
Et on aime aussi avec Hélène les chats. Ah, les
chats. Bon, ils sont domestiques, ceux-là.
Qui n'aime pas les chats ?
Les oiseaux ?
Ah oui, oui. Autant pour moi.
Et juste peut-être une dernière question avant de laisser la place à Gaëlle et sa chanson. Tu parlais beaucoup de l'émerveillement la dernière fois qu'on s'est rencontrés, que c'était un peu l'objectif du GON. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
On a coutume de dire qu'on ne protège que ce qu'on connaît. Et donc, c'est important de connaître notre biodiversité, hein, donc la diversité du monde vivant, pour avoir envie de la connaître. Et pour avoir envie de la connaître, il faut être en capacité de s'émerveiller. Alors, on peut s'émerveiller en regardant les bébés pandas au zoo, mais on peut aussi s'émerveiller en regardant cette nature ordinaire qui nous entoure. Et la petite comparaison que j'aime bien utiliser quand on parle des activités naturalistes, c'est... C'est une histoire de tenture, de rideau qu'on vient écarter. En fait, quand on commence à s'intéresser aux oiseaux, par exemple, au bout d'un moment, on est un peu frustré, parce que les oiseaux, c'est bien, mais derrière, ça va nous parler d'autre chose. Ça mange des insectes, comment ça vit les insectes ? Et puis, ça vit dans une forêt, mais ça marche comment, une forêt ? Et à chaque fois, on va tirer un petit peu le rideau, et je pense que pour avoir envie de tirer le rideau, il faut être confronté à cet émerveillement à un moment donné. Un truc bête, vous intéressez pas du tout aux libellules, vous savez ce que c'est, vous en avez déjà vu, mais c'est tout. Et puis à un moment donné, vous allez en voir une faire un drôle de mouvement au-dessus d'une flaque, et puis vous allez comprendre qu'elle est en train de pondre. Elle est... Tac, tac. Waouh, c'est capable de faire ça une libellule. Et zoup, on va aller s'intéresser aux libellules. On va pas forcément devenir le spécialiste ou la spécialiste des libellules, mais au moins on aura fait un premier pas vers ces animaux. Il faut impérativement s'autoriser à s'émerveiller.
C'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'on ne protège pas les espèces hein, qui nous entourent. C'est parce qu'on ne les connaît pas et parce qu'elles sont méconnues pour la plupart des gens.
Oui, c'est ça, c'est du décor. En fait, c'est ce qui se trouve dehors. Quand on entend les oiseaux chanter, c'est un bruit de fond. On parle souvent de bruit de fond. Alors qu'un bruit de fond, on peut tout à fait, encore une fois, se poser et puis placer son oreille pour dire « Tiens, il y a un bruit de fond, mais il y a quand même des choses qui sont très récurrentes dans mon bruit de fond. » Et ça, c'est « Ah, c'est le chant du troglodyte. Parfait. » Et puis, il y a ça. Ça, c'est le chant du pigeon ramier. Ah, ok. Et ça, ça, c'est le merle. Et on comprend notre manière complètement différente. C'est plus un bruit de fond, c'est un assemblage. Ah, c'est déjà un mot qui est plus sympa.
D'ailleurs, en parlant de ces chants, Gaëlle avait demandé, avait posé la question, tu préfères le troglodyte, le chant du troglodyte ou de la mésange bleue ? Tu avais dit ?
Le troglodyte, évidemment.
Et elle aura utilisé celui de la mésange bleue, me semble-t-il.
La mésange bleue et la mésange charbonnière.
Voilà. Très bien.
Je vais t'interpréter une chanson.
Eh bien, on a
accompagnée d'une mésange bleue et d'une mésange charbonnière.
Génial,
voilà,
j'ai hâte.
Le troglodyte, c'est un virtuose qui n'est pas encore à ma portée.
Bientôt. Le chant de goéland, première étape. Oui. Le troglodyte, seconde étape.
Exactement. Allez.
Allez, on va aller se préparer.
Ce monde où l'homme pratique une politique de l'autruche antique. Rudy ne baille pas aux corneilles, il fait le pied de grue, pousse des cris d'or frais, car il sait que la société est un oiseau de mauvais augure, que le monde libéraliste est un miroir aux alouettes. À ceux qui, chose compliquée, n'ont pas les clés, n'ont pas les clés. Rudy a des développée, une ouïe et une vue augmentées. Décentration, concentration, sortir du temps, faire attention, et le monde prend une épaisseur différente en plein cœur de la ville. Rudy entend un rouge queue bercé par les vagues de pluie et de brouillard. Il sent que le être souffre. Rudy sait qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, mais il sait aussi que petit à petit l'oiseau fait son nid. L'humain gagnerait à être curieux, s'émerveiller. On fait partie d'un grand tout. L'oiseau ne connaît pas la peur de la mort. Il est porté par l'instinct de vie. Les murs de l'esprit sont des rideaux de brouillard et de pluie, franchissables par un pas de côté, par un pas de côté, un petit.
Magnifique.
Un merveilleux cadeau, vraiment. C'était très joli. Je savais pas que je pouvais en mériter autant, mais je suis tout émue.
Bravo, chouette.
C'était vraiment superbe. J'ai pas d'autres mots.
Eh bien, merci de m'avoir ouvert les oreilles, à moi aussi, puisque bah, j'ai découvert, en travaillant sur cette chanson, un milliard de chants d'oiseaux et de banques-sons. Et j'ai découvert les apôts. Alors j'ai du travail, hein, comme on le disait tout à l'heure, puisqu'il ne suffit pas d'avoir l'instrument, il faut aussi travailler la partition. Et ma foi, waouh. il y a du boulot. Rudy, je voudrais aussi te faire partager une découverte musicale que j'ai faite voilà, en pensant à la chanson que je pourrais t'écrire. Je ne sais pas si tu connais le Silbo Gomero.
Pas du tout.
Alors le Silbo Gomero, c'est un langage, une sifflé. C'est le seul langage sifflé au monde. Il est développé, pratiqué par une communauté de 22 000 personnes. Et il vient d'être classé au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et donc je me dis que l'humain est capable aussi de s'inspirer de la nature, des oiseaux, pour vivre, évoluer, communiquer. Voilà, ça fait plaisir aussi que ça aille dans ce sens-là. Et bah voilà, je te propose d'écouter, mais à la fin de l'émission peut-être, le morceau de Féloche qui s'appelle Silbo. Et donc si tu fais attention, tu pourras entendre qu'en fait il reprend le prénom de sa maman en Silbo et c'est le refrain, la chanson.
Et bah oui, on pourra terminer là-dessus, du coup, tant que Nat trouve la chanson. Mais tu nous avais déjà fait écouter quand on était venu chez toi.
Oui.
Tu nous avais fait découvrir ça, je me souviens.
Et oui, et donc c'est une... C'est un langage inspiré directement des oiseaux, qui n'a pas vocation à discuter avec les oiseaux, mais entre humains, d'une colline à l'autre, puisque d'accord, les sifflements d'oiseaux sont beaucoup plus efficaces que le langage humain. pour pouvoir parler à de très longues distances.
Très bien, ben j'ai hâte de découvrir le Silbo-Gomero, c'est ça?
C'est ça.
Bon, on finira l'émission
là-dessus.
Avec Féloche.
Ouais, ça marche. Moi, j'avais une dernière question pour Rudy. Bah, là, c'est le printemps et du coup, je voulais savoir comment tu te sentais en ce moment.
Oui, là, c'est le moment pour tout redécouvrir. Et puis, le printemps, c'est le moment où les ornithos sont obligés de se refaire l'oreille, puisqu'on est obligé de réapprendre chaque printemps. Alors, pas la totalité quand même, mais de se réhabituer après cette longue période de silence. Donc c'est l'occasion là, allons-y, sortons, ouvrons les narines, ouvrons les oreilles et redécouvrons.
Et donc du coup, Rudy, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe concrètement au printemps ?
Ah, parce que le printemps, c'est la période de la reproduction. Donc les oiseaux ne chantent pas pour exprimer leur joie de vivre. Hein. Le chant, c'est à la fois un appel à former un couple. Hein. Il n'y a que les mâles qui chantent. Donc ça sert à attirer les femelles. Et c'est aussi en même temps une déclaration de guerre envers les mâles. En tout cas, c'est à ça que servent les chants des oiseaux.
On espère que tu profiteras de cette belle période qu'est le printemps. Et on vous invite aussi, qui nous écoutez, à utiliser vos sens pour profiter pleinement de cette belle période. Merci Rudy de ta présence, c'était très chouette d'échanger avec toi. Merci Gaëlle pour ton très beau morceau. Et d'ailleurs, je voulais souligner vraiment le travail d'écriture que tu avais fait. On a parlé de la mélodie et tout ça, de la composition. Moi, j'étais très sensible, en tout cas à l'écriture. Ça a dû être un sacré boulot. Tu as dû bien te creuser le
ciboulot. J'étais très
inspirée. C'est vrai.
Très inspirée, et en écoutant ton interview, on échangeait des textos avec Hélène. En
oui, disant, mais... cette phrase sur la mort. C'est vrai que, avant de terminer, tu dis « Les oiseaux n'ont pas peur de la mort, ils ont l'instinct de vie ». C'est quand même très fort comme phrase.
On se paralyse parce qu'on a peur de la mort. Voilà. Le fait d'être un animal évolué, on a cette conscience de la mort qui nous empêche souvent de faire tout un tas de choses, voire de profiter tout simplement de la vie. Et effectivement, s'il y a bien quelque chose qu'on doit retenir de tous ces animaux, c'est que soit ils n'ont pas conscience, soit leur conscience est différente. Et heureusement, parce que ça leur permet de vivre à fond chaque instant, et on devrait faire la même chose.
Très belle morale,
très belle morale,
philosophie.
Ouais. Ouais. Rudy, merci de nous avoir fait partager ta passion et puis ces notions de vie qui sont essentielles, qu'on n'est qu'une petite poussière, rien d'autre.
On espère aussi que les gens qui ont écouté cette émission vont peut-être ouvrir un peu les yeux, les oreilles.
Déjà ouvrir la fenêtre et écouter les oiseaux, ce sera
déjà un bon début.
En plus, là, c'est le moment.
Eh ben merci vraiment à toutes. Je suis ravie d'avoir été avec vous ce soir.
Tu es de bienvenue quand tu veux dans les studios de Radio Boomerang.
Je n'y manquerai pas.
Alors encore merci Rudy, merci Nat, merci Louise et merci Gaëlle qui va nous annoncer notre prochaine invitée.
Eh bien lors de la prochaine émission, nous allons inviter la rappeuse Uchiwai.
Donc on va parler de musique,
de rap, mais pas que.
Ouais, pas que. On verra, on va se laisser guider aussi, c'est le principe. Donc rendez-vous le 15 mai prochain à 10h sur les mêmes ondes. On vous souhaite de passer un très beau dimanche. On espère que vous avez passé un bon moment également avec nous. À bientôt et n'oubliez pas,
les murmures ont des oreilles.
Les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. En ligne, amarré au nuage, un guanché siffle pour s'inviter. Dis-nous. gonflement pour se dire adieu. Le pied agile, les jambes arquées, on ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria, pour protéger son île, El Silbo, pour braver la guardia civile. C'est une île de paradis. Siffle aussi le plus beau chant du plus bel oiseau, c'est le Silbo Gomero. C'est le Silbo Gomero. La Wawa escalade les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Gomero, Bonifacio.
Club.